10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Nous sommes en direct avec les informés de 10h à 11h, émission spéciale, notamment l'émission spéciale Les Informés présidentielles, avec la présence de la ministre, Madame Ladiaye, qui est chargée donc de la politique de la ville, qui se retrouve face aux auditeurs. C'est vrai qu'on m'a souvent fait le reproche, mais pourquoi ne laisse-t-on pas suffisamment de place aux questions réponse à vous, auditeurs, 01 53 48 3000. Je vous attends tout de suite. Vous pouvez nous appeler. Le standard est ouvert. Zora vous accueille au 01 53 48 3000. Qu'avez-vous pensé du débat d'hier? Quel est votre sentiment maintenant posé? Quel regard posez-vous désormais sur une Marine Le Pen face à Emmanuel Macron hier? Comment l'avez-vous trouvé? Êtes-vous convaincu? Parce que vous avez été, je vous le rappelle, nombreux ici pendant plusieurs jours à vouloir, en tout cas, tenter l'expérience de Marine Le Pen pour faire barrage, selon vous, à Emmanuel Macron. Eh bien, nous vous attendons au 01 53 48 3000 pour nous livrer, évidemment, à la fois votre sentiment, mais nous livrer aussi vous interpeller, j'ai envie de dire, pas nous livrer, mais interpeller directement Madame la ministre, donc, qui est avec nous sur le plateau, la ministre, donc, chargée de la politique de la ville, Madame Ladiaye. Voilà les sujets qui vous attendent, donc, débat d'hier soir, mais également aussi le second tour, l'abstention, le vote, voilà, qu'est-ce qui encore anime votre esprit? C'est tout de suite, c'est maintenant, vous le savez, mais plus que jamais, en toute liberté d'expression.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et c'est parti, nous accueillons donc Madame la Ministre, Madame Ladiaye. Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour Adil Farkan.
Comment ça va?
Ça va et vous?
Oui, très bien. Bah écoutez, ça va comme un matin ensoleillé. Ensoleillé à Paris, absolument. J'ai envie de vous poser cette première question et je vais ouvrir l'antenne au 01 53 48 3000 parce que c'est la ministre face aux auditeurs. Les amis auditeurs partout en France, je voudrais vous entendre. Quand je vous dis que je voudrais vous entendre, c'est venir interpeller librement la ministre donc au 01 53 48 3000. Vous venez, vous l'interpellez, vous lui posez toutes les questions évidemment sur le bilan, le quinquennat donc d'Emmanuel Macron. Vous pouvez aussi l'interpeller sur le débat d'hier soir. Vous pouvez aussi nous dire comment vous vivez ce second tour. 01 53 48 3000. Nous vous attendons. Le standard est ouvert tout de suite pour interpeller la ministre. C'est votre émission, j'ai envie de vous dire, Madame la ministre. En attendant que évidemment les auditeurs viennent vous interpeller, comment avez-vous vécu hier soir le débat qu'on attendait tous d'ailleurs, ce débat face à face Emmanuel Macron, Marine Le Pen?
Eh bien, écoutez, moi, j'ai vu un... Enfin, j'ai évidemment regardé le débat jusqu'au bout et on nous avait dit que Marine Le Pen était mieux préparée. On nous avait dit qu'elle avait évolué dans le bon sens, positivement, qu'elle avait une meilleure maîtrise des sujets et des dossiers. Eh bien, force est de constater qu'il n'en est absolument rien.
Oui.
Elle a été mauvaise. Et puis je peux vous dire que pour une personnalité politique comme moi, je trouve ça un peu décevant. Parce que
mauvaise sur quel volet, sur quel aspect elle a été mauvaise?
Elle a été mauvaise sur le fond.
Oui.
Elle n'a aucune maîtrise des sujets internationaux.
Face à un technocrate qui est lui apporté.
Je ne dirais pas technocrate, face à quelqu'un qui maintenant a une certaine expertise des sujets. Face à une personne aussi qui est déterminée. Emmanuel Macron, il a un vrai projet, il a une vraie vision pour la France. Il a un projet qui est sérieux, sur lequel on peut débattre, évidemment. On peut être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, il a le mérite d'être sérieux. Il a le mérite d'être financé, budgétairement. Et donc, avec une vraie vision de notre société, une société qui ne s'oppose pas, une société de vivre ensemble, où on accepte les autres dans leurs différences et qui contribue finalement à la richesse de notre pays. Ça, c'est la vision qu'a le président pour la France. Et à côté de ça, vous avez une femme qui prétend à la plus haute fonction de l'État, être présidente de la République, et qui n'est pas bonne dans la maîtrise des dossiers. Emmanuel Macron a mis fin à l'imposture de Marine Le Pen hier soir sur le plateau. Et je peux vous
fin
dire
à la posture.
À la posture, ou à l'imposture.
À l'imposture. J'avais compris la posture.
La posture et l'imposture.
Les deux. Oui.
Voilà. Il a mis fin aux deux parce qu'elle s'est mise dans une posture d'être présidente de la République. Il a montré qu'il n'en était rien. C'était une vraie amateur finalement sur ces sujets.
Vous êtes en train de me dire qu'elle n'a pas le niveau?
elle n'a pas le niveau, très franchement, Adi Ferkan. Elle n'a pas le niveau. Autant vous dire que c'est pas par manque de respect pour la personne ou pour même sa fonction, parce qu'elle reste quand même présidente d'un parti politique qui est arrivée deuxième à l'élection présidentielle. Je pense que ça, il faut le souligner, à mon grand regret, évidemment. Mais toutefois, il est quand même à souligner qu'ils sont arrivés deuxième dans l'élection nationale. Fin aussi au programme qu'elle a porté, au mensonge qui entoure ce programme-là. Et donc, je pense qu'il a été, vraiment, peut-être parfois un peu agacé par ce manque de sérieux, par ces mensonges.
Vous parlez d'Emmanuel Macron.
Je parle d'Emmanuel Macron. Je peux comprendre qu'il a été agacé.
C'est vrai que quand on lit sur les réseaux sociaux, j'ai fait une petite revue ce matin, j'ai vu pas mal de choses passer. On l'a trouvé parfois arrogant, méprisant, agacé, énervé.
Ce qu'on a pu considérer parfois comme de l'arrogance pour certains, en fait, c'est tout simplement de l'agacement face à la personne qui n'était pas au niveau pour prétendre à cette fonction. Agacé aussi par les mensonges. Vous savez, je connais bien le président de la République, c'est quelqu'un d'extrêmement sincère. Il n'aime pas les mensonges. Et quand il a quelqu'un en face de lui qui ment en français, oui, ça a plutôt tendance à l'agacer.
Et bien justement, allons au standard 01 53 48 3000. Je vous attends donc, je vais accueillir Soltani qui nous appelle du 93. De quelle ville du 93, Soltani?
Saint-Denis, comment allez-vous? Ça va?
Très bien, et vous-même? Bah tiens, voilà, Saint-Denis. Merci. Saint-Denis où le président sortant, le candidat sera sur la ville de Saint-Denis tout à l'heure cet après-midi.
Eh bien, tant mieux pour lui, parce que bon, le problème qu'on est actuellement, on a vu ce qui s'est passé hier. Moi, je suis immigré, je suis depuis 50 ans en France, et je trouve toujours le même salade, c'est-à-dire chacun défend sa place, et après, on dépasse les élections, on garde le même cap. Alors, je suis tunisien, je suis étranger, je suis venu ici, j'ai toujours travaillé, j'ai trouvé ma place, j'étais respecté par le Front National comme avec le capitalisme, je connais ces gens-là. Je trouve que tout ça, c'est normal, chacun défend sa position, mais au fond, il y a toujours quelque chose qui cloche.
C'est quoi qui cloche pour vous? Comment vous avez trouvé le débat hier?
Le débat, c'est toujours le même truc. Moi, je connais Giscard avec Mitterrand, j'ai connu Sarkozy, tous les présidents, tout ça, mais toujours la même salade. Et je trouve que je ne suis pas pour le Front National, parce que j'ai eu comme des clients, je travaillais dans les grands restaurants. Souvent, on se pose vraiment la question, comment voulez-vous garder les bons en France, étant donné qu'on fait venir des mauvais.
Oui.
C'est là, l'objectif, c'est nettoyer, garder les bons, comme ça a été toujours.
Ben, elle va vous répondre, madame la ministre, oui. Bon.
Vous voyez
oui. Comment on peut garder les bons et éviter, évidemment, d'avoir les mauvais en permanence? C'est ce qui pose comme question. En parlant de la classe politique en général.
Ah, la classe politique. Comment on garde les bons?
Oui.
Ah ben ça, de toute façon, je ne sais pas ce qui est
parce
bon pour vous,
Soltani. Parce qu'il trouve qu'il y a beaucoup de médiocres.
Comment? Attendez, madame la ministre, je suis désolé, mais si vous triez, vous allez nettoyer un petit peu, vous gardez les bons, c'est qu'on doit mériter, on doit être respecté, on a le droit d'avoir un logement, on a le droit de nos enfants.
C'est quoi, vous dites des mauvais au sein du gouvernement, par exemple, c'est ça?
Non, au niveau des étrangers, je suis un étranger.
Oui.
Nous, on a travaillé, on a fait des enfants qui ont fait la fac. Eux, ils ont pris nos enfants directement. La société française, sans nous poser la question, ils nous ont pris nos enfants. Maintenant,
ils vous posent la question sur le traitement des étrangers à leur égard, effectivement, que la politique qui est menée, elle est mauvaise. Vous répondez quoi?
Sur le traitement des étrangers
ou c'est ce qu'il dit.
Bon,
Oui, des étrangers complètement.
C'est ce qu'il dit, moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Oui.
Parce que moi, j'ai compris beaucoup de choses à travers ce que nous a dit Soltani.
Oui.
D'abord, sur la question du débat, où il ne l'a pas trouvé finalement à son goût, puisqu'il, d'après ce que je comprends, Soltani, après vous me reprenez si je me trompe, mais sur les propos qui ont été tenus, ne vous ont pas convaincu. Parce que, quelque part, vous dites que c'est ce que vous entendez depuis des années, mais rien ne change.
Et madame, puis, tout change, mais il faut vivre la France, il faut qu'il vive la France avec son temps.
Oui, mais ça, on est bien d'accord.
Quelle que soit l'Europe, quelle que soit la technologie, l'Internet et tout, la mondialisation, je ne sais pas comment vous êtes en train de traiter. Et ça, c'est maigré, il y a la minorité. Des Africains, au maximum.
Non, non, mais il parle vraiment des étrangers. La politique menée à l'égard des étrangers. Qu'est-ce que... C'est ça, j'ai bien compris, moi, j'ai bien compris le sens de sa question. Il vous interpelle sur
ce
sujet-là.
Vraiment, sur la politique menée sur les étrangers, je ne sais pas sur quel vraiment.
Donnez-nous sujet. Un exemple, un cas de figure précis. Un cas de figure précis, Soltani.
Je ne vois pas ce que vous voulez dire par une politique menée sur
vous
les étrangers.
À Soltani, vous pensez à quoi, non. par exemple? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez sur l'obtention de la carte de séjour? Vous nous parlez de quoi précisément? Sur le fait que.
La carte de séjour, c'est rien. La carte de séjour, c'est des gens qui sont venus ici, travailler les ponts, travailler les nationales, travailler, ils ont donné tout. En échange, c'est ce qu'il nous a fait venir ici. Il a fait des nationales pour que tout le monde était content de les avoir. Il nous a fait venir ici pour dépenser de l'argent. On a fait une famille, on a fait des enfants, et ils sont partis à la fac. Mmh. Et actuellement, on nous demande...
Alors c'est quoi votre question précise?
La
stigmatisation.
J'ai cru comprendre, Soltani, maintenant que vous développez un peu plus vos propos, c'est pas le traitement c'est la façon dont on considère les personnes qui sont issues de l'immigration en France, ce qu'ils ont à apporter. Vous savez, sur cette question-là, vous avez deux visions qui s'opposent totalement. Mmh. Mais totalement. Le président de la République a déjà eu l'occasion de s'exprimer il y a quelques semaines de cela, au cours d'une rencontre, du sommet entre les deux rives, c'est-à-dire la rive de la Méditerranée et donc les pays de l'autre côté de la Méditerranée et la France et cette ville de Marseille. Et donc il a eu à s'exprimer là-dessus en expliquant que finalement l'immigration... est considérée, en tout cas pour lui, comme une richesse, parce qu'elle a apporté beaucoup dans notre histoire et a contribué à faire aussi de la France ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une nation une et indivisible, mais une nation et une république riche aussi de sa diversité. Là où vous avez une opposition totale de Madame Le Pen, qui voit l'immigration... comme un danger, qui fait le lien direct, un lien scandaleux qu'il faut dénoncer entre immigration, délinquance, islamisme et jusqu'au terrorisme. Ça, c'est grave ce qu'elle tient.
Merci, Soltani.
Et ça, c'est la vision de Marine Le Pen.
Merci, Soltani. Non, on va avancer, Soltani. Je vous ai laissé suffisamment le temps, évidemment, de développer. Je vous remercie infiniment. Mais en tout cas, on a compris, hein, je pense, qu'on a compris le sens, évidemment, de ce qu'il voulait nous amener. Tiens, je vais accueillir Nadia. Nadia qui nous appelle du 95. Quelle ville, précisément, du 95? Bonjour, Nadia.
Oui, bonjour. Bonjour, Madame la Ministre.
Vous nous appelez de quelle ville?
Du Val d'Oise.
Du Val d'Oise, mais précisément quelle ville?
Argenteuil.
D'Argenteuil. Argenteuil, vous savez qu'on est très écouté à Argenteuil, hein?
Oui.
On a un beau bassin d'écoute là-bas. Hein. Oui. On vous écoute, Nadia.
Alors,
quelle est votre question,
Madame la Ministre?
Oui.
Donc on aide, nous, on fait des actes honorables citoyens depuis très longtemps, depuis toujours. Mais quand ils viennent autour d'être aidés, on écrit à la présidence ou à Matignon, et ben on n'a aucune réponse. Aucune réponse. Donc, maintenant, sont infirmières, donc une à Pompidou, une à sa sœur à Suresnes, et ma cousine à l'hôpital de la Pitié, une cousine qui est soignante à l'hôpital d'Argenteuil. Donc voilà, mes frères, depuis toujours, ils encadrent les jeunes entre 4 heures de football. Mon neveu, il parcourt les villes de France pour apprendre à lire et à écrire le français en alphabet. Mon fils s'est porté volontaire pour les accords de Paris. Il s'est intéressé aussi à
mais alors, quelle est votre Nadia, quelle est
moi,
votre...
Moi, je voudrais pourquoi, quand on pose une question, quand on n'est pas aidé. Alors, lors d'un, par exemple, un acte chirurgical par un ORL, voilà.
Aidé par qui?
Donc, moi, j'ai été même jusqu'à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Moi, je voudrais qu'on m'adresse à un chirurgien, voilà, qui me fait cette préparation, qu'un ORL, voilà, m'a gâché ma vie. Ma vie a basculé depuis cette intervention. Madame la Ministre, faites quelque chose pour moi.
Bon. Mais bon, c'est pas c'est une question délicate là quand même.
Nadia, j'aimerais évidemment vous aider et répondre à votre problème, mais je ne sais pas comment vous aider. Vous avez un problème médical et vous essayez d'avoir un rendez-vous avec un chirurgien, si je comprends bien.
Oui, un chirurgien, mais c'est très délicat. Voyez,
mais j'ai bien compris le sens de sa question. Ça veut dire que globalement, ce qu'elle dit, Nadia,
oui, c'est que peut-être si on élève un peu plus le sujet.
J'ai bien compris quand elle a amené. Nadia, vous m'arrêtez si évidemment je travestis votre pensée. Vous m'arrêtez. Mais de ce que j'ai compris, en gros, c'est que elle en a un peu marre. Il y a un peu ce ras-le-bol parce que systématiquement, elle a fait la comparaison avec son fils, etc. C'est qu'on a beaucoup de mal avec l'administration à obtenir, en tout cas, des rendez-vous.
Alors, il y a plusieurs choses, parce qu'il y a l'administration, il y a aussi le service médical et de santé. Il y a un vrai sujet que vous soulevez à travers votre question. C'est la question de la santé. Parce que c'est ça, la vraie préoccupation de Nadia aujourd'hui, et son appel est lié à ça.
Elle a l'air désemparée, en tout cas.
Et oui, parce que, évidemment, il y a eu un recul de notre système de santé, mais qui s'est organisé pas depuis 5 ans, qui s'est organisé depuis des décennies. Parce que nous avons aujourd'hui moins de médecins. Parce que, il y a quelque temps, il y a plusieurs années de cela, nous avons mis en place un numerus clausus qui ne permet pas les étudiants d'accéder à la médecine et donc d'en faire des médecins. Et donc nous arrivons à une rareté finalement de nos experts de santé, de nos professionnels de santé qui donnent finalement lieu à des situations comme celles que connaît Nadia. Et donc ce que nous avons fait, déjà il y a quelque temps, depuis 4 ans maintenant, nous avons mis fin au numerus clausus pour permettre à plus d'étudiants d'accéder à la médecine et donc d'avoir beaucoup plus de médecins. Mais vous savez tout comme moi qu'il faut 10 ans, 10 années, surtout quand ils ont des spécialités pour former des médecins. Mais nous avons fait cela et nous avons essayé aussi de désengorger nos services d'hôpitaux avec nos services d'urgence, avec l'accès à la santé à travers des maisons
Madame
de santé,
la ministre,
de la prévention santé, de la télémédecine.
Carl, la pub nous attend, donc je vais la lancer. 01 53 48 3000, venez interpeller, et on est à quelques jours de ce second tour. Quelles sont les questions que vous vous posez? Abstention, vote, est-ce que vous avez été convaincu hier par le débat? Le face-à-face, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 10h24, nous sommes en direct et c'est ici que ça se passe partout en France au 01 53 48 3000. La ministre, donc Madame Nadia est avec nous, la ministre donc chargée de la ville. Venez poser vos questions. Comment vous allez vivre ce second tour? On est à quelques jours, mesdames et messieurs, à quelques jours de ce second tour. Est-ce que vous comptez vous abstenir? Est-ce que vous comptez voter? Est-ce que vous comptez évidemment accomplir votre devoir? Comment avez-vous vécu le face-à-face hier, donc le débat? Prenons le temps d'en parler et prenez aussi le temps de venir interpeller la ministre.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et on vous attend ici même que ici en direct. Allez, Ahmed du 92. Et le standard explose, tiens. Ahmed du 92, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, vous nous appelez de quelle ville du 92?
De Rueil-Malmaison.
Rueil-Malmaison, tiens, une ville pas très loin de Courbevoie.
Exactement, de Courbevoie, de Nanterre, de...
Ouais,
je voulais, je me suis amusé à aller partir, situé géographiquement.
La Défense,
voilà.
Limitrophe avec les Yvelines, quand
j'aurais
même.
Allez, je vais être encore plus précis. Saint-Cloud. Est-ce que c'est bon?
Saint-Cloud,
c'est pas mal. Hein.
La Selle Saint-Cloud aussi.
La Selle Saint-Cloud aussi.
Voilà, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà. Ça me rassure. Je suis pas flingué au niveau de la géographie. Allez, on vous écoute, Ahmed.
Vous êtes bon. J'aimerais comprendre en fait, vous poser cette question ou exprimer cette remarque. Pourquoi y a-t-il une différence entre les réfugiés ukrainiens et les réfugiés qu'on a pu avoir? Après toutes les guerres qu'on a pu avoir ces dernières années.
C'est une très bonne question parce que j'ai eu
Pourquoi est-ce que les Ukrainiens ont été facilités dans le logement, dans le travail, dans tout ce qui est administratif? Pourquoi y a-t-il deux poids, deux mesures? Voilà, question simple.
Eh bien, Madame la Ministre va vous répondre. C'est une question récurrente qui est régulièrement venue à l'antenne. Je vous écoute, Madame la Ministre.
Oui, tout à fait. Nous aussi, elle nous est remontée quand même assez régulièrement sur le terrain avec les personnes que l'on rencontre. Et il y a ce sentiment qu'il y a un traitement différencié. Mais en réalité, les Ukrainiens, ils bénéficient du droit d'asile et des réfugiés comme tout autre réfugié ou bénéficiaire du droit d'asile. Et donc, il y a ce sentiment-là parce qu'il y a eu un flux quand même très important où les élus de la République, les maires ont ouvert les villes pour accueillir un maximum, ce qui peut-être donne ce sentiment qu'il n'y a pas eu le même traitement avec d'autres flux de réfugiés avant les Ukrainiens.
Vous savez que ça a été très commenté sur les réseaux sociaux, ça. Hein.
C'est pas un sentiment.
Si c'est vous allez sentiment.
À la porte de Bervilliers et que vous voyez encore des réfugiés qui sont dehors, dans des tentes, dans des conditions d'insalubrité totale, et qu'on les laisse, et je pense que on s'occupe peut-être plus des animaux que de ces gens-là.
Ouf, Ahmed, vous y allez fort quand même.
Vous allez fort, Ahmed. Vous êtes passé du côté de la porte de Bervilliers.
Oui.
Vous avez vu ces gens dans quelle condition de vie?
Ahmed, j'ai participé à des maraudes, donc je sais exactement ce qui s'y passe, évidemment, et c'est dramatique. Et vous savez qu'à chaque famille qui quitte son pays, ce sont des drames humains, de toutes les manières. C'est jamais, on quitte jamais son pays par plaisir. Moi, et d'ailleurs, c'est ce que je dis à des personnes qui ont vu ces flux arriver chez nous, qui ont des familles qui ont fui la guerre pour préserver, protéger leurs enfants, et des Français ici qui ne leur rouvrent pas les bras, ne les accueillent pas comme on devrait les accueillir. Et je leur ai dit, mais mettez-vous juste deux secondes à la place de ces familles.
Justement, on accueille les Ukrainiens.
Non, mais les Ukrainiens, c'est ce qui s'y passe, c'est quand même assez spécifique, parce que c'est un territoire qui est aujourd'hui occupé. Nous l'espérons de manière très temporaire. Les Ukrainiens qui quittent le pays, ils viennent tous ici avec cette idée que ça va être temporaire, cet accueil. Hein. Donc, en tout cas, et moi, je vois en tout cas le traitement qui en est fait au niveau des préfectures, les préfets, et puis je peux vous dire que je suis en lien très régulièrement avec eux. Ils bénéficient du droit d'asile comme les autres. Il n'y a pas beaucoup plus de droits.
Ce que vous voulez nous dire, madame la ministre, il n'y a pas de traitement de faveur.
Il y a peut-être un sujet, vous avez raison, Ahmed, il y a peut-être un sujet sur le logement. Sur le logement et l'accueil qui est fait par des familles qui sont plus enclins à accueillir des familles ukrainiennes plus qu'elles n'étaient enclins à accueillir des familles syriennes. Moi, je pense que s'il doit y avoir une différence, elle se situe à ce niveau-là, parce que le traitement qui en est fait par l'État en termes d'aide, d'accompagnement, le CMU et autres aides financières, on est sous le statut du droit d'asile, et donc toutes les personnes bénéficient au même titre que les autres des mêmes droits.
Les Ukrainiens, on le voit bien, ils sont logés dans des hôtels, ils sont logés systématiquement dans des endroits convenables. On peut pas me dire que là-dessus il n'y a pas une politique qui est complètement différente entre celle pour les Ukrainiens, pour le peuple ukrainien et pour des peuples issus loin de
Ahmed,
de la culture européenne.
Ahmed, je vous interromps. Ce que vous voulez nous dire par là? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous appelle au standard, c'est qu'il y a deux poids deux mesures. C'est votre sentiment?
Il y a deux poids deux mesures en termes de politique. Il y a deux poids deux mesures, même au niveau des médias, sur le fait que ce peuple est plus acceptable que d'autres. Et ça, ça me révolte.
Moi, j'ai entendu ça, madame la ministre.
Vous l'avez entendu. Vous savez, Ahmed, là où je suis à 200% avec vous, moi non plus, j'ai du mal à accepter qu'on hiérarchise. Les drames humains qui de toute façon sont la conséquence de ce qui se passe dans ces territoires qui sont en guerre, et donc ça donne le sentiment justement de mettre en place une hiérarchie de la misère, de la détresse et donc de l'aide. Moi, en tout cas, ce que je peux vous garantir, Ahmed, c'est que traitement État, et là je vous parle que ce que fait l'État, parce que c'est ça dont j'ai aujourd'hui la charge dans mon ministère, mais dans tous les autres ministères, c'est que le traitement n'est pas différencié sur le soutien, l'appui et les aides financières qui sont accordées, sur l'inscription des enfants à l'école aussi. Là où il y a évidemment, je vous le disais tout à l'heure, c'est sur l'hébergement des familles et des élus qui ont ouvert les portes. Moi, vous savez, hier, Marine Le Pen nous dit sur le plateau que Louis Alliot, qui est maire de Perpignan, maire Front National, est allé en Pologne aller chercher des familles ukrainiennes. Je ne les ai pas vus faire ça pour les familles syriennes, notamment. Donc oui, je reconnais, Ahmed, qu'il y a certains élus qui ont un traitement différencié sur l'accueil de ces migrants, mais ça ne saurait être, vraiment, je vous le dis, de la responsabilité de l'État,
voilà,
du fait de l'État.
Ahmed, voilà. Vous avez fait votre choix pour dimanche prochain, Ahmed ?
Ah, entre le entre la peste et le choléra.
Ah non,
choléra.
On peut pas dire ça.
Mais non,
Ahmed.
Vous savez que
c'est très à la mode ça. On peut pas dire ça.
Avant que vous nous disiez votre choix, j'ai eu beaucoup d'échanges et notamment dans les quartiers évidemment où j'agis. J'aurais dit mais ne dites pas ça parce que vous participez à dédiaboliser Marine Le Pen.
Aucunement.
Je suis persuadée que vous êtes tout comme
yeux,
moi.
J'ai les yeux grands ouverts sur qui est Marine Le Pen, voilà. Sur ce qu'elle vaut. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on est à une échéance des élections. Mais les années sont passées. Les années passées, on a travaillé sur le fait de ne pas rassembler, de tout le temps diviser. Et là, justement, là, on parle des Ukrainiens. Et des pays comme les Syriens, les Libyens qui sont arrivés en France, on parle de ça, mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels on a des problématiques de discrimination, pourtant français et français, mais par contre noir, beurre, et c'est pas d'aujourd'hui que cette discrimination existe.
Mais oui, vous avez raison. C'est pas d'aujourd'hui qu'elle existe, mais je peux vous dire que c'est un combat. Je suis pas la seule à le mener au sein du gouvernement et de cette majorité. C'est un combat de tous les instants sur cette question de la discrimination. Et on s'aperçoit que elle est malheureusement trop présente.
On va avancer, Madame la Ministre.
Dans certaines administrations.
Ahmed,
et elle est dans plusieurs niveaux.
Merci Ahmed.
Merci à vous, monsieur.
Merci, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Hein. Il faut qu'on aille. Tiens, direction Lyon. Je vais accueillir Najette. Bonjour Najette.
Bonjour l'équipe, merci de me prendre au téléphone.
Mais je vous en prie, quelle est votre question, parce qu'on a beaucoup d'appels. Hein.
Alors je fais très vite, je vais être concise. Donc,
concise, savoir, c'est bien, j'aime ça.
Durant le mandat de M. Macron, président, qu'a-t-il fait pour le public handicapé?
Bonne question.
Je vous dis ça en connaissance de cause, puisque je suis maman d'un petit qui est polyhandicapé. Donc, il y a des problèmes et pour les établissements accueillants ou qui sont saturés, qui n'ont pas de personnel, etc. Durant le Covid, il n'a été rien fait pour ce public-là. On a vu sortir des émissions de TV spéciales pour le public n'ayant pas de problème de santé. Par contre, pour les enfants qui sont porteurs de handicap, rien n'est fait. Nos dossiers MDPH qui ont été envoyés en 2020, ils sont à ce jour où je vous parle aux oubliettes. Et puis, en tant que parent, quand on a un enfant handicapé, ben, on est obligé de s'arrêter de travailler, de se reconvertir. C'est ce que je fais.
Non, mais c'est une vraie
profession.
C'est une vraie préoccupation et un vrai.
Je ne m'éclate pas dans mon travail comme je l'étais avant parce que je priorise mon fils.
Oui.
Donc, en fait, vous ne parlez jamais des personnes âgées. Il n'y a que quand on parle des maisons de personnes âgées qui sont maltraitantes.
Vous m'avez promis d'être concise. Hein.
Là,
vous êtes parti dans un.
Allez, j'attends les réponses.
Najette, je vais accueillir d'autres questions si vous voulez bien.
D'accord.
Parce qu'on est vraiment inondé par le standard.
Il faut que je fasse vite.
Non, c'est pas faire vite, je vais prendre une série.
Ah d'accord.
Voilà, si vous voulez bien, Madame la Ministre. Hein.
Mais on peut pas répondre juste.
Si, allez-y.
C'est hyper précis sur le handicap. Allez-y. Et vous avez raison, Najette, on en a pas suffisamment parlé.
Najette de Lyon, merci pour votre question. Allez-y, Madame la Ministre.
On en a pas suffisamment parlé et on n'a pas suffisamment dit ce que nous avions fait en 5 ans sur le handicap. Et évidemment, Najette, il nous reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire sur ce sujet qui je dois aussi vous avouer qui me touche particulièrement, vraiment, parce que j'ai beaucoup de retours, j'ai aussi beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont dans ces situations-là et on a vu des points d'amélioration, même si évidemment nous devons aller beaucoup plus loin. Donc ce que je vais vous dire en termes d'action, c'est pas un satisfaci, mais c'est pour vous dire vraiment ce que nous avons fait. Et nous avons là en la matière agi. Nous avons amélioré la garantie et l'accès aux droits des personnes qui sont en situation de handicap. Évidemment, le droit à la vie et à la prestation de compensation de handicap que vous connaissez. Nous avons aussi rendu l'école beaucoup plus inclusive. Vous savez, nous avons augmenté de plus de 24% en 5 ans le taux des enfants qui sont scolarisés.
Mais là, je trouve que c'est pas suffisant encore.
Et elle a raison. Elle a raison parce que il faut accélérer, il faut aller beaucoup plus loin.
Mais on clairement, elle est confrontée à une réalité, c'est celle de son fils.
On vient de tellement loin. En fait,
oui,
on arrive dans un état aujourd'hui où tout est urgent. Et évidemment, nous avons mené aussi ce combat sur les personnes en situation de handicap. Et nous avons mis vraiment permis plutôt à plus de 400 000 nouveaux enfants d'avoir accès à la scolarité, je crois que je comprends que ça puisse pas satisfaire pour les personnes qui sont dans une situation encore compliquée.
Allez,
mais à
je
tous
lance
les
la
autres,
pub.
Je crois que la réponse
je
a
lance.
Été.
Il est 10h36, pardonnez-moi, ouais, madame la ministre, mais non, mais il y a aussi l'horloge, moi qui me, vous savez.
Najat, écrivez-moi, je vous donnerai toutes les autres réponses.
Voilà, elle vous a lancé. Voilà, absolument. Le message est clair. Nous irons direction Marseille. Ça vous va, Marseille? Vous
étiez
à Marseille. Pour accueillir Rafik. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. 01 53 48 3000.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
10h42, nous sommes en direct. La ministre face aux auditeurs, face à vous d'ailleurs, au 01 53 48 3000. La ministre, donc madame Nadia, est chargée de la politique de la ville. Beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup d'appels. Et je vous en remercie, puisqu'évidemment, c'est le succès de la ministre. Hein. Bon, c'est bien,
le succès
vous voulez.
De l'émission, Adil.
Ah, vous... non, je crois pas, mais bon, c'est aussi votre présence. Dites-moi, nous allons accueillir Rafik de Marseille. Rafik, bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Bonjour, bienvenue mon cher Rafik, je vous écoute. Quelle est votre question? Soyez vraiment court et précis, parce qu'on a beaucoup de monde.
Ok, alors moi c'est plus une remarque par rapport au traitement médiatique là, qui a été fait concernant le débat d'hier, où on a l'air de dire que le président candidat a été plus offensif et avait tendance à dominer le débat. Moi j'ai plutôt envie de dire qu'il a été plus dans l'agressivité et que Marine Le Pen a su garder son calme. Moi, c'est plus ce que j'ai observé. Mmh. Et par ailleurs, il y a quelques points, on va dire, et des formules de rhétorique qu'il a pu utiliser, notamment l'accusation concernant le prêt que le RN a contracté auprès de la banque russe. J'ai trouvé qu'il a trop insisté là-dessus. Et j'ai trouvé ça un peu gonflé de sa part. Lui, l'ancien banquier... Et lui qui a quelques petits soucis à l'heure actuelle avec le cabinet McKinsey, j'ai trouvé ça un peu gonflé d'insister sur ce point-là. Et il en est de même concernant la problématique du voile, alors que lui-même avait eu des propos qui allaient à l'encontre du port du voile. Hein. Et aujourd'hui, il se désavoue lui-même sur cet aspect-là.
On a bien
même
compris, effectivement.
Effectivement, il ne pensait pas légiférer là-dessus.
Voilà, merci.
Mais...
Rafik, merci. Vous êtes fixé sur le second tour, vous-même?
Alors, bon, moi, clairement, je n'irai pas voter Marine Le Pen. Maintenant, je ne sais pas si je voterai pour Macron ou Blanc.
Ben écoutez, voilà, on va vous répondre. Madame la ministre, qu'est-ce que vous répondez à Rafik de Marseille?
Alors,
merci Rafik, je vous libère.
Très très vite, ce que Rafik évidemment a vu comme une certaine agressivité, je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, moi j'ai surtout vu un agacement face à une méconnaissance des dossiers certaines de la candidate Marine Le Pen, et je pense qu'il ne faut pas surestimer les capacités de Marine Le Pen et être aussi sensible à cette image plutôt adoucie d'une personne qui quand même dans son programme a clairement comme objectif la préférence nationale. Donc je pense que là je pense qu'il ne faut pas adoucir son image plus qu'elle ne l'est déjà, parce que Zemmour s'en est déjà chargé pour tout le monde. Donc, et pardonnez-moi, Rafik, quand on s'appelle Rafik et qu'on habite Marseille, dire qu'on va voter blanc face à l'extrême droite et face à Marine Le Pen, moi, ça m'interpelle vraiment beaucoup. Parce que voter blanc, pour moi, c'est donner une voix à Marine Le Pen, très clairement. Et on peut ne pas être d'accord. Vous pouvez évidemment critiquer la politique portée par le président de la République, le critiquer même lui-même, et c'est ça la démocratie. Et fort heureusement, nous sommes dans ce pays qui nous permet de le faire, mais de là à finalement amoindrir, peut-être même neutraliser le danger que représente Marine Le Pen en les mettant dans le même niveau et hésiter à faire son choix, je pense que ça me paraît extrêmement dangereux.
Réfléchissez, voilà.
Réfléchissez
évidemment à deux fois.
Et la Russie, évidemment, il est très important de pointer le lien qu'elle a avec la Russie et finalement comment la tient Vladimir Poutine dans l'exercice du pouvoir qu'elle prétend aujourd'hui pouvoir, en tout cas, y avoir accès.
On va remonter sur le département du 93. Bonjour, Wari. Wari, bonjour, vous êtes avec nous?
Bonjour.
Bonjour, vous nous appelez de quelle ville du 93, Wari?
Montfermeil.
Montfermeil, on vous écoute, mon cher Wari. Quelle est votre question à la ministre?
Moi, j'ai la question. La France a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les attaques après des sanctions. Mais du mandat de Macron, on ne l'a pas entendu lorsqu'il y a eu les attaques israéliennes envers la Palestine. Il y a, c'est exactement la même chose. C'est la même chose, c'est une invasion de territoire. On ne l'a pas entendu, il n'y a pas eu de sanctions contre Israël. Est-ce que la France a peur d'Israël ou quoi?
Question simple. Merci, Wari, pour votre question.
La France n'a peur d'aucun pays, je vous rassure, vraiment, Wari. Et donc, vraiment, on est dans deux situations quand même qui sont différentes, deux contextes politiques qui sont totalement différents. La France a toujours pris position sur la question du conflit qui israélo-palestinien, en étant vraiment en phase totalement avec le droit international. Et donc, la France avait condamné l'annexion par l'offensive qui avait été menée par Israël envers la Palestine. La France a pris des positions et elle était même à prendre des sanctions si Israël allait beaucoup plus loin. Je vous invite vraiment à reprendre les propos de Jean-Yves Le Drian sur la question. Ce n'est pas mon périmètre, c'est la diplomatie internationale dans laquelle je ne vais pas faire vraiment d'ingérence. Je vous invite à reprendre les propos de Jean-Yves Le Drian sur la question et vous verrez vraiment que la France a pris des positions. Quant au conflit actuel qui mêle la Russie à l'Ukraine, il faut surtout pas oublier que l'Ukraine c'est sur le territoire européen, que c'est aux portes de l'Europe, que juste à côté vous avez la frontière polonaise et roumaine, et on ne peut pas aujourd'hui traiter cela comme ne faisant pas partie de notre territoire. Le président est président en ce moment de l'Union européenne, il a la présidence française de l'Union européenne, donc il se doit d'agir aussi en conséquence pour garantir la sécurité sur notre territoire européen.
Madame la ministre, nous poursuivons, nous accueillons donc Fatma qui nous appelle toujours du 93, j'ignore la ville. Bonjour Fatma. Fatna, bonjour.
Voilà, en fait, oui, bonjour.
Quelle ville du 93 Montfermeil aussi? Non, non, je crois pas.
Non, pas du tout. Non, pas du tout, de Pantin.
Pantin, bienvenue aux portes de Paris. On vous écoute,
exactement.
Fatna.
Exactement. Bon, moi, je vais essayer d'être. Alors, moi, en fait, voilà, je suis maman donc, de 4 enfants et j'aurais aimé savoir, en fait, le programme qui est proposé par rapport aux jeunes. Alors, voilà, moi, mais j'ai des jumeaux qui sont au collège. Et en fait, je m'aperçois que là encore une fois, bah, en fait, on leur demande à 14 ans, par exemple, bah, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Et je trouve que en fait, ils sont mal orientés.
Oui, c'est une bonne question. Hein.
Et par exemple, comme nous à l'époque, hein, on nous a dit, bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Du coup, bah, on les mettait en CAP ou ceci ou cela, mais sans vraiment creuser le truc de savoir en fait. Quelle est la pépite, en fait, de chaque enfant et de mettre ça en avant? Une classe.
Excellente question. Elle vous répond, madame. Fatma, elle vous répond, madame la ministre.
Fatma, c'est une excellente question. Bonjour d'abord. Et vraiment, vous avez totalement raison. Vous savez, en France, ce qu'on n'a pas su faire, c'est révéler les compétences qui existent en chacun de nos enfants. Et donc, on a plutôt eu tendance toujours à mettre dans des cases et en mettre dans des parcours des personnes, des enfants qui n'ont pas forcément choisi ou n'ont pas envie d'aller vers cette orientation scolaire et pour autant, ils s'y trouvent. Et le vrai échec dans les parcours professionnels commence d'abord à l'école par un échec sur l'orientation.
Mais concrètement, pour répondre à sa question.
Et donc, ce que dit le président de la République,
il dit quoi ?
Très clairement. On a commencé à mener beaucoup, beaucoup de travaux en la matière des expérimentations pour faire en sorte, finalement, que l'enfant soit au cœur de tout un projet éducatif qui doit tourner autour de lui. Et c'est-à-dire que tout l'environnement de l'enfant, à savoir l'éducation nationale, les parents, les associations qui peuvent accompagner et montrer la voie, les éducateurs spécialisés quand il y en a besoin, les élus locaux, donc les mairies, les départements, la région, toutes ces personnes agissent de près ou de loin dans le parcours de l'enfant. Eh bien, avec le président de la République, il a décidé, dans son programme, eh bien, de les mettre tous autour d'une table et de travailler territoire par territoire, vraiment tout ce qu'il convient de faire pour faire en sorte que chaque enfant il ait le droit à sa propre réussite donc, et qu'on l'accompagne dans ce parcours.
Vous invitez Fatma à faire quoi précisément ?
Subi, mais un parcours choisi. J'invite Fatma, évidemment, à voter le 24 avril pour le président de la République, puisque c'est sa priorité.
Moi, j'entends ce que vous dites, mais en attendant, je trouve quand même que le problème, parce que, par exemple, juste derrière, moi, j'ai un autre qui est en maternelle, Et en fait, moi, ce que je souhaiterais, c'est par exemple faire l'école à la maison.
Je
et
suis
ça,
contraint.
Vraiment, je trouve oui. que oh mince, ouais, c'est vraiment dommage.
Ouais, ouais, je suis contraint. Je suis désolé parce que je dois rendre l'antenne dans 3 minutes précisément.
L'école à la maison, un petit peu de patience. Réfléchissez.
Allez, je vais accueillir
à cela parce que vraiment, l'école de la République est en train de se transformer.
Je voudrais quand même vous donner le mot de la fin.
Et j'espère qu'elle apportera les réponses que vous attendez.
Je vais accueillir Rabat Kabbach qui a un coup de gueule, paraît-il, donc sur l'antenne. Rabat, bonjour.
Bonjour Adil, bonjour Madame la Ministre, merci de nous donner la parole. J'ai un coup de gueule concernant le rôle des médias pendant toute cette campagne électorale, pendant cette présidentielle. Et les résultats du premier tour, entre guillemets, montrent que le français est intelligent, puisque partout où les quartiers populaires sont représentés, où on a des fortes concentrations, on va dire, de gens issus de la diversité, partout où il y aurait, d'après les médias, des soucis de délinquance, des soucis d'immigration massive, etc., etc. Partout, le vote s'est porté sur le candidat Mélenchon. Partout. Donc là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le Front National, dans les grandes banlieues, voisine aux alentours de 10%. Là où sa thématique, c'est l'étranger, le méchant, l'étranger, le délinquant, l'étranger, le fraudeur, etc., etc. Donc, on est en train de voir deux types de population. Il y a une population qui a peur, mais qui ne connaît pas, et une population qui connaît, mais qui n'a pas peur. Et donc, cette population qui connaît et qui n'a pas peur a massivement voté pour le candidat Mélenchon.
Exact.
Et donc, les médias ne l'ont jamais, mis en avant dans leurs débats, en écoutant les débats sur les télés, sur les médias, etc. Je ne passe pas ma vie non plus devant.
Merci.
Mais personne ne l'a mis. Là où, logiquement, on devrait être...
Merci.
On aurait peur de sortir de la maison, au final, il y a le vivre ensemble. Le président Macron, et ça, moi aussi, j'appelle surtout à aller voter...
Rapidement.
Président actuel Macron, il faut aller voter. Il faut aller voter parce que on a affaire à vraiment une fumisterie de la part de Marine Le Pen.
Merci, voilà. Rabat, pour ce coup de gueule.
Merci Rabat.
Merci à vous. Le mot de la fin en quelques secondes.
Alors,
je m'excuse pour les autres auditeurs. Effectivement, ça y est, c'est déjà la fin de l'émission. Hein.
Par rapport, juste ce que vient de dire Rabat, évidemment, je partage. Les quartiers ont rejeté de bloc en bloc le projet de Marine Le Pen au premier tour. Il faut qu'ils le rejettent en bloc au second tour. Non pas pour aller mettre un bulletin blanc ou s'abstenir, mais en mettant un bulletin Emmanuel Macron, parce que c'est la seule manière de faire barrage. Tous ceux qui ne se déplacent pas ou tous ceux qui se disent « je vais voter Marine Le Pen parce que je suis frustré, je suis en colère et je vais manifester ma colère comme celle-ci », eh bien, ça revient à avoir un vote d'extrême droite. C'est ni plus ni moins que cela.
Merci.
Donc, allez voter, parce que c'est important. Et juste un dernier mot sur tout tous les électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Certains ont voté par adhésion, et je respecte du programme, d'autres par colère et par rejet. À cela, le message qui a été envoyé, il a été entendu. Je vous le dis très clairement, et il n'est pas question aujourd'hui d'entamer un prochain quinquennat sans évidemment tenir compte de tout ce qui nous a été remonté ces dernières semaines.
Merci, c'est bien de l'avoir dit. Merci, Madame la Ministre.
Allez voter dimanche prochain.
Merci, la Ministre face aux auditeurs, merci à vous.
Merci
à tous les auditeurs, vraiment mille merci à vous, parce que vous avez été très 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 nombreux, évidemment, à nous interpeller. J'ai pas pu prendre tous les autres. À demain, avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.